Man, there's supposed to be 1.5 million people here by tonight. New York State Thruway is closed, man.
Hello to all friends, resistance, revolution in America.
We must be in heaven, man. There is always a little bit of heaven in a disaster area.
How are you out there?
La serie musicale di te. Woodstock, e te ne, e te. Hello, Di Maio.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Tout l'été, la série musicale fait tomber les murs. Et cette semaine, dans Woodstock, l'éternel été, nous serons à l'écoute des murs qu'a fait tomber ou trembler ou pas ce festival qui promettait 3 jours de musique peace and love. C'était il y a un demi-siècle. Aujourd'hui, rêver d'une autre route.
You know, this used to be a hell of a good country. I can't understand what's going on with it.
Hey, we can't even get into like a second-rate hotel. I mean, a second-rate motel, you dig? They think we're gonna cut their throat or something, man. Like, they're scared, man.
Oh, they're not scared of you. They're scared of what you represent to them.
Hey, man. All we represent to them, man, is somebody who needs a haircut.
Oh, no. What you represent to them is freedom.
What the hell's wrong with freedom, man? That's what it's all about.
Oh, yeah, that's right. That's what it's all about, all right. But talking about it and being it, that's two different things.
Went to look for America and couldn't find it anywhere. Un homme parti à la recherche de l'Amérique qui ne l'a trouvé nulle part. Voici comment la bande-annonce de ce film dont on vient d'entendre un petit extrait, ce film Easy Rider, sorti juste avant l'été 69, voilà comment sa bande-annonce vend ce road trip en dehors des clous et des clichés d'Hollywood.
God damn, the pusher.
Juste après sa sortie et juste avant Woodstock, le film est déjà culte dans les facs. Il va révéler un acteur inconnu, le jeune Jack Nicholson, qui fait ses débuts à l'écran sous les traits de George, un avocat qui se retrouve embarqué dans une traversée de l'Amérique avec deux bikers hippies, Billy et Wyatt, dit Captain America, dont le casque et la moto sont peints aux couleurs du drapeau américain. Une bannière étoilée qu'on retrouve plantée chez les fermiers, les hippies ou sur la lune que viennent tout juste de conquérir les Américains ce même été 69. Un symbole au bout de la route que chacun se trace et au-delà des étoiles, peut-être l'image que chacun peut se faire des États-Unis. Dans l'extrait qu'on vient d'entendre, au début de cette émission, Jack Nicholson n'imagine pas qu'il va mourir juste après, battu à mort dans son sommeil par des habitants de cette Amérique profonde qu'il traverse cet été-là, été 69. Il dort à la belle étoile avec ses compagnons de route parce que, dit-il, les motels refusent de loger ce trio de bikers. Et il dit... C'était vraiment un sacré pays, un pays génial. Je comprends pas ce qui a pu se passer pour que ça foire. Billy, le personnage joué par Dennis Hopper, lui répond alors en gros que les braves gens ont peur d'eux, de leur look et surtout de leurs cheveux longs, dit-il, pour tenter d'expliquer les réactions de cette Amérique raciste et conservatrice qu'il traverse et qui refuse visiblement les changements de cette fin des 60s. Nicholson lui répond alors « Non, ils n'ont pas peur de toi, mais de ce que tu représentes pour eux. Tu représentes la liberté. » Ouais, et alors, hein, le pays repose là-dessus, non ? Interroge Dennis Hopper. Ouais, mais en parler et la vivre, c'est deux choses différentes, lui répond Nicholson. Easy Rider sera donc le carton de l'été et même de l'année 69, même s'il a été réalisé avec des bouts de ficelle, il va rapporter plus de 40 millions de dollars et sera même primé à Cannes en 69.
C'est Dan Sofer, le metteur en scène que vous voyez monter, recevoir ce prix un peu inattendu. Première œuvre, long métrage, Easy Rider pour les États-Unis.
I like to make films about America, in America. You know, it's very difficult sometimes.
Je voulais faire un film en Amérique, sur l'Amérique. C'est très difficile d'avoir la liberté de faire ça. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est ça, c'est faire des films comme ça, dans la campagne, montrer des gens, pas à Hollywood.
Get your motor running, mets en marche ton moteur, fonce vers l'autoroute, cherche l'aventure, prends le monde dans une étreinte d'amour, fais feu de tous tes pistolets à la fois et explose dans l'espace, fais la course avec le vent. Voilà, entre autres, les paroles de ce tube Born to be Wild. Nous sommes nés pour être sauvages. We can climb so high, nous pouvons grimper si haut. I never wanna die, je ne veux jamais mourir. Ne jamais mourir, forever young and free. Voilà donc le credo de Steppenwolf et son fameux Born to be Wild, BO du film Easy Rider et de toute une jeunesse américaine en cet été 69. Un été où le slogan du Free Speech Movement de Berkeley, ne pas faire confiance aux plus de 30 ans, règne dans les facs en colère. Easy Rider, ce film en forme de rêve américain, emmène alors toute cette jeunesse de baby-boomers au cinéma et sur les highways américaines, au carrefour entre la route et l'été, pour sonder cette Amérique qui fait tant rêver le monde. De la Californie qui se réinvente à coups de poésie de fleurs, au Nouveau-Mexique aride en passant par le Colorado verdoyant, la Bible Belt, les champs de blé fertiles, le Midwest, les cités radieuses et les campagnes paumées, les communautés hippies bariolées et les villes industrielles grisonnantes ou les tripes colorées au LSD, voilà le western de toute une génération, un western à moto sur les routes du pays. Malgré la fin tragique et pessimiste du film, son succès secoue Hollywood parce qu'il fait écho au western que vit le pays en cet été 69. Les gamins veulent faire tomber les murs de leur chambre et voir un autre horizon que les cookie cutter houses de leur banlieue, ces maisons construites sur le même modèle, le même gentil moule à cookies, à l'image de la vie de leurs parents. Même s'il est écrit par des Canadiens, ce titre, Born to be Wild, réveille l'Amérique sauvage, terre de conquête et de migration, de prospérité et d'espoir, de paradoxe et surtout de liberté, comme le souligne le patriote personnage de Jack Nicholson avant de mourir. This used to be a hell of a good country.
You know, this used to be a hell of a good country. I can't understand what's going on with it.
Thank you.
50 ans plus tard, quand l'Amérique s'apprête à célébrer Woodstock et sa vague Peace and Love qui fait encore rêver des générations nostalgiques, sa présidence imagine une autre révolution à coups de murs à construire aux frontières du pays. Un peu avant l'été, le président actuel encourageait même certaines élues américaines, dont les noms ont des consonances qui lui semblent étrangères, à, je cite, « rentrer dans leur pays ». This used to be a hell of a good country. Alors toute cette semaine, nous allons tenter d'entendre les échos de Woodstock, entendre ce qu'un festival de musique a pu lézarder ou pas, comme mur dans la plus grande puissance mondiale et ailleurs. Et si ce festival a eu un tel écho, c'est aussi peut-être parce que d'autres murs avaient tremblé avant que ce rassemblement Peace and Love ne se tienne. Pas vraiment à Woodstock d'ailleurs, mais à une centaine de kilomètres de là. On verra tout à l'heure pourquoi. En tout cas, en ce mois d'août 69, toute une jeunesse a encore un espoir fou. Un espoir qui résonne toujours aux États-Unis et dans le monde des décennies plus tard, nous le verrons toute cette semaine. Elle croit cette jeunesse en une autre société possible, en une autre route à prendre.
We'd like to take you back to Woodstock. It's called on, this song's called On the Road Again.
Les Californiens de Can Heat live in Woodstock, août 69, avec un de leurs tubes On the Road Again, un hommage bien sûr au best-seller de Jack Kerouac, On the Road, sur la route, paru en 1957 et devenu la bible beatnik de toute une génération. We'll be right back. Mais avant d'arriver à Woodstock, de s'engluer dans les embouteillages, puis de sortir les tentes et les sacs de couchage, avant que ce festival ne devienne un mythe de la contre-culture américaine, la jeunesse a les yeux braqués vers l'autre rive du pays, sur la côte ouest, où sévit le pouvoir des fleurs. Flower power. À la fin des années 60, une déferlante hippie submerge la ville de San Francisco. Il y a un nouveau rêve californien, California Dreamin', comme le chante ici Eddie Hazel, avec cette reprise boostée au solo de guitare du célèbre morceau des Mamas et Papas de 66. Le monde regarde vers San Francisco, où l'Amérique se réinvente à coups de fleurs, de communautés fraternelles, là où les beatniks Kerouac, Ken Kesey et les Grateful Dead imaginaient une autre route. Une chanson va servir d'aimant vers ce nouveau Far West hippie que devient la côte ouest. C'est le tube de l'été 67, enregistré ici au premier festival Peace and Love des États-Unis, le Summer of Love à Montréal.
Oh, okay. We'd like to introduce to you a real good friend of ours from a long time ago. This guy has the most beautiful voice. I just love his voice. I'm going to sit down and get myself into a mood. If you're going to San Francisco, Scott McKenzie.
San Francisco, summertime est un hippie. Si les vrais Indiens sont dans leur réserve, ces hippies sévissent dans les quartiers des mégalopolises de la côte ouest des États-Unis. Les fleurs sont leur emblème et ils sont nés dans les années 65-66 dans les faubourgs de Los Angeles. Leurs 10 commandements, les voici. De la société, tu t'écarteras. De l'amour, tu t'occuperas. De la marijuana, tu fumeras. Les 7 autres commandements étant les corollaires des 3 premiers. And music, music, music.
Si vous allez à San Francisco, vous y verrez San Francisco, vous donneront tout ce qu'ils ont pour rien. Si vous allez à San Francisco,
même si en 67 on l'entendait, l'ORTF regarde les hippies avec un peu de mépris, les artistes européens comme Johnny ou George Harrison, eux, se verraient bien vivre en exil, guitare en bandoulière et fleurs au fusil à 8 Ashbury, le nouveau QG du Flower Power. Même s'ils rêvaient de San Francisco en 68, comme on vient d'entendre, Johnny Hallyday finira par choisir Los Angeles comme quartier d'été, puis comme résidence. Ça c'était bien avant que sa fille Estelle ne soit contrainte d'y vivre pour garder sa carte verte et ainsi pouvoir réclamer son héritage. Pas l'héritage hippie des 60s, mais celui de son père, qui sortira d'ailleurs bientôt un album posthume avec un titre en forme de manifesto des 60s, puisqu'il va s'appeler « Mon pays, c'est l'amour ». Bien avant l'arrivée des Hallyday, la Californie avait accueilli les damnés de la dépression et les exclus de la prospérité pour tous décrétés par l'Amérique victorieuse après-guerre. Tous ces migrants finissent souvent comme main-d'œuvre d'appoint dans les vergers, constamment surveillés par les shérifs locaux, mais ils perpétuent encore le mythe de l'Ouest, pays de cocagne. « Go West, young man », se disent aussi des milliers de freaks, hédonistes et autres hobos qui déboulent sur les routes californiennes à la fin des années 60 pour inventer une autre American way of life et qu'on va retrouver un peu à Woodstock. Même quand les hippies ne sont plus les bienvenus à San Francisco parce que le maire de la ville les a déclarés persona non grata et que 8 Ashbury devient le théâtre d'affrontements avec la police, la ville attire encore poètes, chevelus, rêveurs et autres musiciens venus de tout le pays pour écrire leur page hippie à la marge. L'amour réinvente l'art et des groupes se forment.
Il y avait beaucoup de villes qui comptent culturellement aux États-Unis, mais San Francisco a un rôle à part. Avant, sur la côte ouest, tout se passait à Los Angeles. Et San Francisco a commencé à devenir une ville de musique vraiment à part, qui attirait aussi bien des poètes que des peintres ou des artistes.
Jack Cassady, bassiste des Jefferson Airplanes.
New York a connu sa gloire, Nashville aussi, parce que chaque époque et chaque génération a son centre névralgique. Et San Francisco était définitivement celui des années 60. New York, c'était plutôt dans les années 20-30, quand il y avait tous les groupes de jazz. Les temps changent. Moi, j'ai quitté Washington et je suis arrivé à San Francisco en 1965. On a commencé à monter notre groupe. On était jeunes, j'avais tout juste 21 ans. On était tous égaux dans le groupe. Tout le monde pouvait composer. Dans le passé, c'était différent. Il y avait souvent un bon chanteur et un producteur arrivait et recrutait des musiciens pour le produire. Mais là, nous, on était un vrai groupe de musiciens avec des bagages très différents. Tout le monde apportait ses influences. Et ça donnait un son unique. Ce n'était peut-être pas aussi pro et poli que certaines autres formations, mais au moins il y avait un esprit de groupe.
Made a unique sound, and so it maybe wasn't as polished as a lot of other professional musicians could have been, but at least it had its own solidarity to it, and the band would stick together as a band.
Parce que à cette époque, tout le monde se promenait avec sa guitare dans le dos, son instrument à portée de main, prêt pour jammer.
Actually, we did.
Oui, c'est vrai. Après nos concerts avec les musiciens, on filait jammer dans les clubs. On était jeunes, on avait plein d'énergie. Et oui, j'emmenais ma basse partout. À l'époque, personne n'était une légende. On était juste des jeunes musiciens qui cherchaient une excuse pour jouer et apprendre.
Next. side of this life.
La musique propose de regarder de l'autre côté de la vie, The Other Side of This Life, comme le chantent ici les Jefferson Airplane avec Jack Cassidy à la basse, ici au festival de Montreux en 67. Montreux, c'est le premier festival à prôner l'amour en musique et en plein air, 2 ans avant Woodstock, avec un défilé de groupes à la mode sur scène, dont les Jefferson Airplane, Joplin, Hendrix ou Ravi Shankar. Leur musique est créative, exaltante, sublime et pendant 3 jours, elle résonne dans ce petit port de pêche. Woodstock réincarnera en partie le casting de Montreux en pleine nature. 2 ans avant, la Californie incarne donc déjà un appel d'air et de nouvelles visions. Sous LSD, les musiciens explosent l'orthodoxie du rock et ils prônent l'amour. Mais plus que l'amour, le Summer of Love va populariser une nouvelle façon de vivre la musique. Non plus dans une salle fermée ou sur disque, mais en communion en masse, loin des grandes villes, avec plusieurs groupes sur scène. Le festival comme nouvelle escale estivale, cette mode va s'exporter dans les années qui suivent et s'amplifier encore plus avec Woodstock. Le Summer of Love, c'est aussi le premier festival où la performance scénique va au-delà de la musique, quitte à casser le matériel. Le guitariste des Who y fracasse sa guitare sur scène et juste après lui, c'est Jimi Hendrix qui met le feu à la sienne sur Wild Thing.
À San Francisco et sur la côte ouest, on ne voyait jamais de performance théâtrale sur scène, comme ils peuvent le faire en Angleterre. Ça, c'était le genre de truc des Who ou de Jimi Hendrix qui foutait le feu à sa guitare. Moi, je n'y comprends rien. Nous, on était horrifiés de le voir brûler une si belle guitare Fender. En Californie, on n'était pas trop dans ce type de spectacle et de démonstration. C'était vraiment un truc d'anglais. Et eux, ils étaient dans un autre monde. Ils étaient en compétition dans toutes sortes de domaines. Donc c'était un peu à qui en ferait le plus.
C'était un coup de pub.
Je ne sais pas si c'était si calculé, mais c'est sûr que c'était un moyen de faire parler d'eux en dehors de la musique.
À Woodstock, Jimi Hendrix fera tomber un autre mur en déformant l'hymne américain. Provoque ou surenchère sur scène pour séduire les caméras de la contre-culture qui accompagne désormais les premiers pas de la pop live avec des documentaires à Montreux, puis à Woodstock. En tout cas, la musique vivante amplifiée devient mémorable. En live, la musique devient donc un happening au carrefour de la contestation sociale, politique et artistique. Mais surtout, surtout, elle devient une expérience.
They ask
acid test is everywhere in this spaceship. Everywhere you are, you're all acid testing and acid tasting. Inside the confines of this interspatial dome, you will find the acid test taking place.
Ne partez pas, chers auditeurs, vous êtes bien sûr France Culture dans la série musicale et nous sommes ici dans une soirée acid test à San Francisco, une fête concert portée par la consommation de LSD, qui doit son nom au livre de Tom Wolfe, The Electric Kool-Aid Acid Test. Les envolées et les improvisations sous acide de ces soirées happening vont façonner les carrières de groupes comme les Mary Prankers, les Grateful Dead ou les Jefferson Airplane. Dans leurs sets, qui seront qualifiés de rock psyché ou d'acid rock, à Woodstock, comme dans les soirées acid test, certains groupes intégreront donc les longs solos improvisés inspirés par la défonce et ne cacheront d'ailleurs pas que quelques pilules ou quelques buvards nourrissent leurs inspirations. Dans l'imaginaire collectif, Woodstock reste un symbole de la contre-culture de ces années 60 qui va populariser et même incarner le mouvement hippie et le psychédélisme. Mais en fait, il y avait donc bien quelque chose qui flottait dans l'air avant Woodstock, une soif d'expérience, d'élargissement des consciences, une envie de changement.
There's something happening here. What it is ain't exactly clear. There's a man with a gun over there, telling me I got to beware. I think it's time we stop, children, what's that sound? Everybody look what's going down. There's battle lines being drawn. Nobody's right if everybody's wrong. Young people speak in their minds are getting so much resistance from behind. Time we stop, hey, what's that sound? Everybody look what's going down. What a field day for the heat. A thousand people in the street, singing songs and carrying signs. Mostly say hooray for our side. It's time we stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going on. Tracks deep into your life, it will creep. It starts when you're always afraid. Step out of line, the man come and take you away. We better stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. Stop.
For What It's Worth du groupe Springfield Buffalo, monté par les jeunes Steel et Neil Young. Ce tube sort en 67, mais il est encore très écouté pendant l'été 69 parce que cette chanson passe à la radio. Elle a été écrite après des émeutes qui ont opposé des jeunes aux forces de l'ordre après la fermeture d'un club connu sur une grande artère de Los Angeles où un couvre-feu a même été imposé aux jeunes fêtards. Mais For What It's Worth, c'est surtout l'une des protest songs adoptées par les opposants de la guerre au Vietnam. Leur rassemblement festif et naïfs vont d'ailleurs forger l'esprit de Woodstock.
Ici Washington. Le soleil est au rendez-vous. Depuis un mois, il n'avait pas fait aussi beau et aussi chaud. Une torpeur qui, malgré le bruit des haut-parleurs, incite bien des manifestants à s'allonger sur l'herbe et à faire une bonne sieste en attendant que les événements se précisent. Nous sommes pour l'instant au pied du monument de Lincoln, attendant les premiers discours. Évaluer la foule est assez difficile. 15-20 000 personnes au moins, peut-être plus. Les arbres touffus cachent la vue de part et d'autre du magnifique plan d'eau qui s'étend du monument de Lincoln à celui de Washington, le long du Potomac. L'atmosphère est plutôt celle d'une kermesse, un grand pique-nique. Spectacle de marionnettes, pour commencer, danse inspirée du folklore vietnamien, autre chant folklorique plus américain cela, et chant satirique comme ceux que vous entendez en ce moment. Tout cela occupe la foule, la tient un peu en haleine en attendant que commence la véritable manifestation. Les chanteurs que vous entendez en ce moment dénoncent les activités criminelles de l'oncle Sam. Le spectacle est à la fois sympathique et impressionnant dans ce cadre splendide, l'un des plus beaux panoramas qui voit au monde de Washington près du Potomac à travers la ville. Et le service d'ordre pour l'instant est très discret. Il faut dire que cette réunion ne fait que commencer.
Wait until the war is over. And we're both a little older. The unknown soldier.
Breakfast where the news is read. Television, children fed. Unborn living, living dead. Bullet strikes the helmet's head.
Un an après l'assassinat de Bob Kennedy et de Martin Luther King, un an après les émeutes qui ont défiguré Washington, la capitale, ou Chicago, en marge de la Convention démocrate, et surtout avec le retour de milliers de jeunes soldats américains du Vietnam dans des sacs, l'Amérique se divise et se radicalise. En 69, il flotte dans l'air quelque chose qui n'est plus si pacifique qu'au moment du Summer of Love. Il y a dans la jeunesse américaine un mélange d'impatience, d'inquiétude et de colère qui transpire dans la musique. Alors si elle ne se met pas en grève comme en France, l'Amérique marche. Elle marche pour se faire entendre. Des marches qui font écho à celles où Martin Luther King avait fait un rêve à Washington en 63. C'était aux côtés de John Baez et de Bob Dylan. Des marches et des sit-ins pour changer le pays et le monde, pour dessiner d'autres routes dans ce pays où l'on a le droit de se faire tuer à 18 ans, mais pas de voter avant 21 ans. C'est ce que chante Barry McGuire dans Eve of Destruction, qui deviendra aussi un des hymnes anti-guerre du Vietnam en 69.
The Eastern world, it is exploding, violence flaring. Bullets loading. You're old enough to kill, but not for voting. You don't believe in war, but what's that gun you're toting? And even the Jordan River has bodies floating. But you tell me over and over and over again, my friend, you don't believe we're on the eve of destruction. Don't you understand what I'm trying to say? Can't you feel the fears I'm feeling today? If the button is pushed, there's no running away. There'll be no one to save with the world in a grave. Take a look around you, boy. It's bound to scare you, boy. And you tell me. Yeah, my blood's so mad, feels like coagulating. I'm sitting here just contemplating. I can't twist the truth, it knows no regulation. Handful of senators don't pass legislation, and marches alone can't bring integration. When human respect is disintegrating, this whole crazy world is just too frustrating. And you tell me over and over and over again, my friend, you don't believe we're on the eve of destruction. Thank you.
jump around to Selma, Alabama. You may leave here for 4 days in space, but when you return, it's the same old place. The pounding of the drums, the pride and disgrace. You can bury your dead, but don't leave a trace.
Americans killed in Johnson's War in South Vietnam over recent times. Of these unlucky men, Senator Ernest Gruning spoke as follows. I definitely feel that they had not died for our country, but had been mistakenly sacrificed in behalf of an inherited folly.
Pendant que naît la première culture au monde portée et imaginée par des jeunes dans un pays de baby-boomers où presque 40% de la population a moins de 25 ans, pendant que 500 000 jeunes s'apprêtent à se lancer sur les routes américaines pour converger vers le plus grand festival jamais organisé et se retrouver pris au piège du plus grand embouteillage que l'Amérique n'ait jamais connu, pendant ce temps, 540 000 autres Américains sont embourbés dans les rizières à des milliers de kilomètres de New York, au Vietnam, là où l'Amérique va envoyer plus de 2,5 millions de soldats, dont près de 40% d'appelés, pour une guerre qui fera plus d'un million de morts. Et depuis la fameuse offensive du Tet, la première nation du monde réalise qu'elle subit des revers auxquels elle ne s'attendait pas. À la fois bourreaux du napalm et victimes d'une guerre qu'ils ne comprennent pas, les jeunes GI resteront à jamais traumatisés. L'Amérique se fissure en deux et des milliers de jeunes déserteurs fuguent. Ils errent sur les routes et renouent un petit peu avec la culture beat de Jack Kerouac. L'Amérique revient des illusions de la présidence Kennedy, les ghettos s'embrasent, les tensions raciales explosent, le pays n'en finit pas de se débarrasser de la queue de la comète de Jim Crow et la police redouble de violence. Et celui qui sait mieux raconter ce monde qui change, c'est lui.
This is called With God on Your Side. Oh, my name, it ain't nothing. My age, it is less. The country I come from is called the Midwest. I was taught and brought up there the laws to abide, and that the land that I live in has God on its side. Ah, the history books tell it, they tell it so well. The cavalry's charged, the Indians fell. The cavalry's charged, the Indians died. Ah, the country was young with God on its side. The Spanish American war had its day, and the Civil War too was soon laid away, and the names of the heroes I was made to memorize, with guns in their hands and God on their side.
Vous avez reconnu la voix de Bob Dylan au Carnegie Hall et ce titre « With God on Our Side » qui dénonce la bonne conscience dont se part l'Amérique pour faire la guerre au nom de Dieu. Une Amérique bigote qui avait rajouté en 1956 la phrase « In God we trust » sur les billets verts, ce qui inspire ce sticker qu'on verra sur certains combis Volkswagen à Woodstock. « In God we trust, all others pay cash. Nous, on fait confiance à Dieu, les autres paient comptant. » La chanson « With God on Our Side » figure sur le troisième album de Dylan, le fameux « Times They Are Changing » qui dénonce l'injustice de la société américaine et le mal de vivre qui en découle. Il va inspirer toute une génération, dont Jack Cassidy, des Jefferson Airplane.
Dylan a été une référence très importante pour nous.
parce qu'il composait sa propre musique et ses propres textes, et il parlait de ce qui se passait ici et maintenant, en 64, 65, 66. Avant lui, quand tu étais jeune, tu écoutais de la musique écrite par des gens 20 ou 30 ans plus tôt.
Of your own generation and writing about music of,
et là, tu avais quelqu'un de ta génération qui écrivait des musiques et textes de son
about
temps.
Il
racontait ce qui se passait autour de nous.
Beaucoup
de gens écrivent avec leurs tripes, mais très peu arrivent à décrire les problèmes sociaux de leur époque. Et lui, il y arrivait très bien.
Underlying social issues going on at the time, and he was one of the guys that did that.
There must be some kind of way out of here, said a joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Businessman there, drink my wine, plowman dig my earth. None will level on the mine, nobody of it is worth.
All Along the Watchtower, une reprise de Bob Dylan par Jimi Hendrix. Alors si le festival s'appelle Woodstock, alors qu'il n'a pas du tout eu lieu à Woodstock, c'est en partie à cause de Bob Dylan, qui s'est installé avec femme et enfants dans ce petit village de 4000 habitants, entouré d'une forêt sauvage où s'est implantée une communauté d'artistes depuis le début du XXe siècle. Des artistes qui fuyaient déjà l'enfer urbain de New York. À Woodstock, il y a des galeries d'art, des pièces de théâtre, des happenings poétiques et surtout des sound-out, des petits festivals en plein air où les spectateurs viennent pique-niquer ou camper pour voir les Jefferson Airplane, Tim Hardin ou les Mothers of Invention de Zappa dans un cadre détendu, intime et informel. Bref, depuis les années 60, cette bourgade s'est mise au diapason de la contre-culture et on la surnomme même le Greenwich Rural, le Greenwich Village Rural. Des légendes comme Janis Joplin, Tim Hardin ou Jimi Hendrix s'y sont mis au vert, mais le phénix des hôtes de ces bois, c'est bien Bob Dylan qui fuit le monde et surtout ses fans. Et qui en 69, malgré son statut d'icône, n'a pas joué en live depuis plusieurs années. Alors des rumeurs annoncent que Dylan viendra peut-être à Woodstock, ce qui permet, comme on dirait aujourd'hui, de lancer un buzz autour du festival. Mais Dylan n'acceptera jamais de jouer à Woodstock. Il craint d'être harcelé par tous les frics qui l'idolâtrent et qui le poursuivent. Dans ses chroniques, ses mémoires parues en 2004, Dylan écrit « Woodstock avait été pour moi un refuge, mais plus maintenant. » Apparemment, on avait placardé partout dans les 50 états du pays des itinéraires pour permettre à des bandes de marginaux et de drogués de trouver le chemin pour venir chez nous. Du coup, Dylan se cache et il s'est même armé. Et comme lui, les habitants du paisible village de Woodstock ne veulent pas vraiment qu'un festival se tienne près de chez eux, d'autant que des grappes de hippies commencent à investir les lieux avant même le début de l'été 69. Alors que les billets et les affiches sont déjà imprimés, la nouvelle tombe, la municipalité de Wallkill, au sud de Woodstock où devait se tenir le festival, pose son veto en juillet et refuse que l'événement ait lieu là-bas. Elle a d'ailleurs aussi refusé in extremis cette année, en juin 2019, d'accueillir le festival des 50 ans de Woodstock. Mais le nom Woodstock restera donc à jamais associé à l'aventure, à ce festival hors normes et hors les murs, en pleine campagne, comme une parenthèse rurale à quelques heures de New York. On en reparlera demain.
Gotta get going, well, I can't stay here long now. Cause I'm tired of the way I've been dogged around. Well, I've got to roam, baby, find me a brand new home.
Pour se quitter, Can Heat, Going Up the Country, un hymne à la fuite vers la campagne et au retour à la nature pour inventer une vie communautaire au grand air, avec aussi la voix au perché de Bob Hyde qui s'inspire du bluesman fantomatique américain Skip James, Going Up the Country, donc un morceau qui ouvre le film culte Woodstock de Michael Wildleg dont nous reparlerons demain. Aujourd'hui, nos hippies New Age et autres utopistes ont vogué sur vos ondes grâce à notre réalisateur psychédélique Jean-Christophe Francis à la réalisation, grâce à notre guitar héros Louis Bardinet à la technique, avec un grand merci à notre bikeuse aventurière Zineb Souleimani, à notre pacifiste littéraire Anne-Lise Signoret à la bibliothèque de Radio France, à notre hippie chic de la communauté du quatrième étage Amaury Chardot, ainsi qu'à notre équipée sauvage des archives Ina, Marine Decamp et Christelle Rousseau. Et puis merci aussi à Jack Cassady, héros psyché à notre micro qui a vraiment connu Woodstock sur scène et dont la voix a été traduite par notre routard chevelu Antoine Lachant, que nous remercions aussi, sans oublier l'essence discographique de cette émission, notre carburant musical délivré par Romain Couturier de la discothèque de Radio France. Voilà, c'était La Série Musicale, une émission proposée par Elodie Maillot. À demain. Gotta get going.